Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Feuilles Vives numéro 21. Notre dernière émission nous emmenait du côté d'Ouc pour un projet d'éducation au patrimoine mené par une enseignante du collège, par une architecte et par des artistes. On reste dans le nord du département aujourd'hui avec un projet d'épicerie rurale participative, le comptoir des cocottes. Construite sur le modèle de Park Slope Food Cop à New York, de l'éléphant à Grenoble ou de la Louve à Paris, cette structure commerciale associative repose sur un lien direct avec les producteurs ainsi que sur la participation d'adhérents à la fois clients et bénévoles afin de réduire les marges le plus possible. Le comptoir des cocottes doit ouvrir ses portes en juin prochain dans les locaux de l'ancienne épicerie de Thoré-la-Rochette qui a fermé ses portes il y a quelques mois. À mi-chemin entre Vendôme et Montoire, ce village de 900 habitants est idéalement situé entre les deux grands centres urbains de la région. D'autant plus qu'en dehors des vins des coteaux du Loir, les offres de produits agricoles en circuit court se font plutôt rares dans le Vendômois. Ce soir, la réunion d'information à destination des habitants de Thoré promet de faire salle comble. Dirigeants de l'association, bénévoles et producteurs partenaires se relaient au micro pour que les Thorésiens se familiarisent avec cette épicerie au fonctionnement novateur. Christine Bourdier est la présidente de l'association porteuse du projet. Excellente communicante, notre entretien lui permet de fourbir son discours avant de monter sur scène.
Alors une épicerie participative, c'est quoi ? C'est une épicerie où une équipe de bénévoles participe au bon fonctionnement du magasin, ce qui nous permet d'imaginer vendre des produits locaux, bio en majorité, ou en tout cas sans pesticides, à des prix comparables à ceux de la vente directe. Et donc, l'idée, c'est d'abord de soutenir les producteurs locaux, l'agriculture locale, et de rendre cette alimentation saine, accessible à tous, même aux plus démunis. Donc voilà, et ça, on peut le réaliser grâce à cette équipe de bénévoles qui viennent nous aider et qui participeront dès l'ouverture du magasin hein, à toutes les tâches qu'on peut avoir à réaliser dans une épicerie. Hein. Ils pourront mettre des légumes en rayon, ils pourront passer des commandes chez les producteurs, ils pourront faire du ménage, ils pourront tenir la caisse, voilà tout ça. Donc ambiance conviviale garantie. On a à peu près 70 adhérents pour le moment et on espère en avoir beaucoup plus ce soir. Et donc des gens qui se sont rapprochés du projet depuis un an au fur et à mesure. On a fait un peu des événements culturels, on a tenu des stands dans des brocantes. Et donc petit à petit, les gens se sont rapprochés de nous. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître puisqu'on était SDF, hein, on n'avait pas de toit. Donc voilà. Et puis la réunion de ce soir, qui est un peu abusivement appelée Assemblée Générale, c'est plutôt, on va dire, une réunion de présentation du projet. C'est justement pour expliquer aux Thorésiens ce que va être leur épicerie, désormais. Voilà. Et puis leur proposer de venir avec nous, de nous soutenir. Donc on va leur expliquer tout ça en long, en large, en travers. On va aussi recueillir leurs idées. Leur souhait, est-ce que cette épicerie, par exemple, ils ont envie qu'elle ait des services aussi, qui sont importants, milieu rural, ça peut être des points relais, ça peut être, la vente des cartes de pêche, ça peut être des choses comme ça, qui peuvent intéresser les habitants. Donc, on est ouvert à toutes les propositions possibles, dans la mesure de nos moyens, on essaiera de coller à la réalité locale, quoi.
Comment ça fonctionne ? Le fonctionnement participatif, d'abord, ce sont des bénévoles qui aident dans le magasin. Donc ça implique une baisse des coûts de fonctionnement. Donc les bénévoles peuvent participer à diverses tâches dans l'épicerie. Et ces coûts de fonctionnement bas nous permettent d'avoir des prix de vente comparables à ceux pratiqués en vente directe. C'est très simple, en fait. Donc grâce à ce fonctionnement participatif, le comptoir des cocottes, c'est d'abord un débouché gagnant pour les producteurs locaux. Les prix des produits locaux sont fixés par le producteur. Le comptoir des cocottes, lui, s'engage pour sa part à pratiquer une marge faible. Donc les prix sont ainsi garantis accessibles pour le consommateur sur les produits locaux et de saison. Donc essentiellement les fruits et légumes, la crèmerie, les céréales, les légumineuses, la viande. Voilà. Ensuite, il y a les prix des produits de consommation courante qui, quant à eux, sont comparables à ceux des autres épiceries de village. Par exemple, sur la lessive, comme disait Agathe, le magasin appliquera une marge traditionnelle. Au final, donc, c'est toute une communauté qui participe à un projet local, solidaire, convivial, qui remet de l'humain au cœur d'une démarche commerciale. Et puis, nous allons vous expliquer tout à l'heure comment vous aussi, vous pouvez participer.
Si vous êtes bénévole, ça vous engage à faire entre 2 et 3 heures de travail par mois. Donc en gros, vous venez vous inscrire sur un planning, vous choisissez vos horaires, vous choisissez les missions que vous voulez faire. Ça peut être vraiment très varié, de la mise en rayon, du nettoyage, des rencontres avec les producteurs, tenir la caisse, ça peut être vraiment... et donc, c'est un travail en équipe. Vous ne serez jamais seul dans le magasin. On travaille toujours tous en équipe. Et en plus, il y aura les salariés qui pourront venir vous encadrer.
Je pense que les gens qui participent à un projet comme celui-là, que ce soit comme bénévole ou comme consommateur, ils viennent chercher la même chose que dans les grandes villes, c'est-à-dire des produits choisis, des produits sur lesquels ils ont un regard, des produits qui sont bons pour la santé. Et donner pour les bénévoles, donner 2 à 3 heures de leur temps par mois. Hein, c'est pas le bagne non plus, ça se fait bien. Donc là, quand je vois qu'avant d'ouvrir nos portes, on est déjà 18 dans l'équipe, on se dit qu'avec quelques personnes de plus, sur un planning d'une semaine, enfin de 4 semaines, puisque c'est par mois qu'on va compter le temps de travail des bénévoles, c'est absolument possible. C'est tout à fait possible. Après, il faut du renouvellement, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui viennent travailler au magasin. Ce n'est pas des gens d'abord corvéables à merci, et c'est des gens aussi qui méritent de valoriser leurs compétences. C'est-à-dire, nous, on pense aussi que, par exemple, il peut y avoir des formations gratuites pour les bénévoles, ceux qui veulent se former, à la direction d'équipe ou à tenir une caisse ou à faire de la comptabilité et tout ça. Donc c'est un peu aussi l'idée du projet, c'est que chacun selon ses compétences, mais aussi ceux qui n'en ont pas du tout, puissent participer et puis apprendre des choses, apprendre sur le tas ou apprendre par ailleurs et les uns des autres. Mais il nous a semblé important quand même d'avoir un salarié, un équivalent temps plein, justement pour encadrer aussi les bénévoles. D'abord pour qu'ils ne soient pas tout seuls, parce que ce n'est pas évident d'avoir, quand on ne sait pas forcément tenir un magasin, d'arriver comme ça et d'avoir plein de choses à faire. Et puis justement aussi pour ne pas les user. C'est-à-dire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent des tâches répétitives. Ça permet une souplesse, ça permet aussi de rester ouvert pendant les vacances. Alors on compte par contre sur les bénévoles le dimanche matin, parce qu'on va être ouvert le dimanche matin, et là, nous, on aimerait bien dormir un peu. Donc, café croissant et ouverture du magasin dédié aux bénévoles le dimanche, ils vont se débrouiller tout seuls, parce que les salariés ne seront pas là. Quand il n'y a pas d'épicerie comme ça dans un village, une épicerie de produits locaux, les gens vont acheter dans la grande distribution. Donc là, c'est une façon, je pense, à travers ces produits locaux, d'abord de redécouvrir tous les savoir-faire qu'on a dans la région, et ils sont nombreux, et qui le fait ? C'est-à-dire, nous, on a prévu, justement, dans le magasin, une grande carte du coin, avec tous les agriculteurs, tous les producteurs qui vont travailler avec nous. On visite chaque ferme, chaque exploitation, pour voir comment les gens travaillent, comment ça va aussi de leur particularité de culture, mais aussi comment, pour les éleveurs, par exemple, est-ce qu'ils sont soucieux du bien-être animal, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est des questions que se posent les gens, finalement, puisqu'ils n'ont plus envie de manger n'importe quoi. Donc, quand on n'a plus envie de manger n'importe quoi, on a envie de savoir d'où ça vient. Et quand on veut savoir d'où ça vient, on va chez l'agriculteur. On retourne, justement, aux vraies questions. Et comment c'est cultivé, et comment vous faites. Et les agriculteurs sont demandeurs de ce lien. Je pense qu'ils ont aussi envie de faire connaître leur travail, qui est encore une fois difficile. Et qu'on reconnaisse eh ben, tout ce savoir-faire qui finalement se transmet de génération en génération et qui est un capital et un patrimoine humain vraiment important. Quoi.
Bonjour, je m'appelle Florent Mouillon, voilà, je gère l'exploitation de Villavard qui est liée au lycée agricole de Vendôme et de Montoire. On est producteur, donc on a différentes productions, on fait des céréales en agriculture biologique et on élève aussi des moutons en bio. Ils seront en bio à partir du mois d'avril 2018. On a un objectif au niveau de la ferme, c'est d'avoir un circuit de commercialisation qui soit assez court. Donc c'est une des opportunités de participer à la vie locale, associative, et aussi parce qu'en tant que ferme de lycée agricole, on a un rôle dans la dynamique locale. Donc c'est pour s'inscrire pleinement dans ça. Donc c'est un avantage pour nous, ça poursuit une de nos missions publiques. Et le deuxième aspect, c'est qu'économiquement, c'est plus intéressant de vendre en circuit court et de faire la plus-value sur la commercialisation que de vendre en circuit long. Ça demande plus de travail, mais l'un dans l'autre, on s'y retrouve.
Pour nous, c'est important de faire vivre les localités, de faire vivre le circuit de proximité. Ça permet de montrer d'autres modèles aux élèves, de montrer qu'il n'y a pas que les filières longues et la production de masse qui fait vivre l'agriculteur. Il y a aussi ces aspects-là de développer le circuit de commercialisation, que les métiers de l'agriculture, c'est aussi être en contact avec de la clientèle, pouvoir discuter avec des commerçants locaux et montrer que ça fonctionne et qu'on tire notre épingle du jeu et qu'on vit bien si on met des systèmes de circuit court en place et qu'on n'est pas obligé d'aller râler au salon de l'agriculteur et d'aller voir Macron à l'Élysée pour s'en sortir. On peut aussi trouver des solutions en développant le circuit, le social, en développant une activité où on est maître de notre commercialisation. Voilà.
On est juste à côté de Villavard, c'est trois villages à côté. Donc il y a Thoré-la-Rochette, Saint-Rémy, Housset, puis Villavard. Je ne suis plus dans l'ordre, mais c'est quelque chose comme ça. Donc c'est juste à côté. Donc ce serait notre point de vente le plus proche pour nous. Donc en termes de circuit de commercialisation, je pense qu'on peut faire difficilement plus court. À part d'avoir un point de vente à la ferme, mais bon, pour eux. Donc ça, c'est un aspect distance. Après, l'intérêt, c'est que c'est vraiment une dynamique locale avec un objectif de produire local et de consommer local. Et ça, c'est en plein dans la philosophie de la bio, c'est d'avoir des circuits de commercialisation les plus courts possibles pour que chaque personne qui rentre dans ces circuits de commercialisation s'y retrouve économiquement et qu'on sache et que, par exemple, s'il y a un consommateur de Thoré-la-Rochette serait intéressé de voir mes produits, bah, il a 3-5 km à faire et puis il est à la ferme. Voilà, il y a ce côté-là, bah, je produis pour ici, je sais où vont mes animaux, je sais comment ils sont abattus, comment ils sont transformés, par qui ils vont être consommés ou quelles sont les voies de distribution. C'est pas les animaux, parce qu'en circuit long, mes animaux quittent la ferme, puis ça part dans le Limousin, et après je sais pas s'ils sont consommés chez Leclerc ou chez un Biocop ou chez Super U ou n'importe autre. Il faut que j'en dise un troisième, Intermarché. Et voilà. Souvent on pense que les agriculteurs, ben voilà, ils sont pas prêts à venir discuter, à échanger, on n'a pas envie de les déranger. Tous ne le seront pas, mais il y en a une bonne partie qui sont très contents de parler de leur métier, d'échanger, de présenter ce qu'ils font. Après, il y a des jours où ils vont envoyer aider les gens parce qu'ils sont trop occupés. Il y a des jours où ils sont plus disponibles. Et je pense qu'il ne faut pas, en tant que consommateur, habitant, il ne faut pas avoir peur d'aller dire bonjour. Et de pouvoir y passer 5 minutes, dire bonjour, rencontrer quelqu'un, c'est... voilà, et puis... je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont partants pour échanger avec la population. On voit quand même qu'il y a pas mal de gens qui veulent faire du circuit de la vente directe, aussi pour cet aspect-là, contact avec le monde, enfin, contact avec les habitants, avec les consommateurs.
D'accord, parce que ça manque ça, quoi. Ça peut manquer.
Dans mon cas, moi, j'ai des élèves qui passent pratiquement tous les jours, ça va, mais c'est vrai que pendant les vacances scolaires, on est pas parfois un peu seul, quoi. Donc je peux imaginer que des agriculteurs qui sont seuls sur l'exploitation, bah, parfois ça fait du bien aussi de voir d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes.
Deux semaines plus tard, au milieu des vacances scolaires justement, Florent reçoit la visite de la commission producteur du comptoir des Cocottes. La secrétaire de l'association, Agathe Dupuis, accompagnée de Jean-Marc, un bénévole, font le tour des futurs fournisseurs de l'épicerie. Le but de ces visites, déterminer les produits et les quantités disponibles et mieux connaître les méthodes de ces agriculteurs. Certes, nos cocottes ne disposent pas des moyens d'évaluer précisément l'impact écologique des fermes qu'elles visitent. Pas question d'éplucher la comptabilité ou de prélever des échantillons de sol comme dans le cas d'un contrôle sanitaire ou de certification bio. Agathe doit s'appuyer sur son expérience d'ingénieur agronome ainsi que sur un réseau d'agriculteurs de confiance capables de l'orienter vers des producteurs aux pratiques vertueuses. Florent fait partie de ces agriculteurs directement impliqués dans l'association qui porte le projet d'épicerie participative. Pas de laissez-passer pour autant, ce matin, c'est à son tour d'être visité par Agathe et Jean-Marc.
Comme tu veux, c'est un peu.
C'est toi, c'est toi.
On peut parler autour du café après. Okay.
On a une
lettre
ce matin.
Ah, cool.
Deux pizzas.
Ah, deux.
Elles sont bien. Il y en a une, elle est petite, mais elle est vive, et l'autre, elle est petite, mais elle n'a pas l'air d'être très réveillée, mais elle est chaude. On verra dans la journée si elle va être
tétée ou pas.
Parfois, il en faut un peu de temps pour s'arrêter.
Si tu vas avoir d'autres naissances
Là, depuis lundi, normalement, je devrais... J'attends. Bon, ça m'arrange parce que j'ai autre chose à faire.
On s'installe de l'autre côté ?
Ouais, on peut aller dans l'autre côté.
Ça, c'est vraiment une fiche pour les connaître. Des informations sur la ferme, sur les dates d'installation, etc. Et ensuite, ici, c'est des informations plus sur eux, leur manière de voir l'agriculture, pourquoi ils sont passés en bio. Et ensuite, derrière, c'est vraiment des questions beaucoup plus pratiques sur comment eux pourraient travailler avec nous. Au jour le jour, les dates de livraison, les quantités, etc. Et ensuite, on leur demande ça maintenant, comme ça, nous, après, on peut prévoir nos stocks, c'est le détail de tous les produits qu'ils pourront vendre au comptoir, avec les quantités, les prix, etc. Comme ça, nous, après, on pourra planifier les commandes et voir sur quel stock on part au départ.
Nous, nos années-là sont prévues sur le mois de janvier, février, mars, avril. Donc, pour couvrir les besoins alimentaires des brebis en gestation et puis en lactation, il faut qu'on les complémente en grains parce que sinon. Ouais.
C'est du grain que vous produisez.
Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Donc, vous achetez rien à l'extérieur.
Juste des compléments, enfin du sel.
Ouais.
Et quelques compléments vitaminiques, ouais. Mais c'est tout. Sinon, ça coûte trop cher.
Ouais.
Et donc après, on a une dernière question. C'est un peu la question...
Piège ?
Non, pas piège, non, qui te caractérise. C'est sur quel point technique tu portes une attention particulière ?
Sur la partie ovin, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de réduire toute les gestions, l'utilisation des produits sanitaires, donc le déparasitage, etc. Mmh. Ce qui n'est pas facile, et c'est d'aller vers la maximisation de la consommation d'herbes et de fourrage et de réduire la part de céréales.
Ouais.
Okay. Parce que là, pour deux points, un point économique, parce que c'est le céréale qui coûte le plus cher dans l'alimentation, et l'autre point est un peu philosophique. Les céréales, si je ne les fais pas bouffer par les moutons, ben c'est autant de surfaces qui sont disponibles pour fournir l'alimentation humaine ou alimenter d'autres système de production, quoi. Par exemple, je sais pas, on n'en fait pas, hein, mais pourquoi pas dégager des surfaces pour faire du chanvre pour l'isolation, ou faire du colza ou des cultures qui produisent de l'huile pour notre carburant ou des choses comme ça. Et tant que mes moutons consomment beaucoup de grains, bah, je suis un peu limité là-dessus. Ouais. Et puis si on peut mieux valoriser l'herbe, c'est mieux quand même.
Là, pour l'instant, on s'est consacré vraiment aux producteurs bio.
du coin. Donc c'est super rare d'avoir déjà deux productions bio équivalentes. Ça arrive un petit peu en viande, etc. Donc on a choisi d'abord d'aller voir les plus proches. Et tout le monde nous a pas répondu forcément positivement parce que il y en a qui ont déjà tout leur circuit de distribution et donc ils vendent toute leur production. C'est sûr qu'avoir un nouveau point de vente, c'est pas forcément intéressant pour eux, ça fait du temps, etc. Mais la plupart sont super motivés, c'est toujours un accueil génial quand on va les voir. Et donc on les contacte petit à petit, et puis les productions qu'on n'a pas, on va chercher un petit peu plus loin pour voir, etc. Pour l'instant, je crois que le plus loin est à 50 km d'ici, enfin de Touré. Donc on arrive à avoir une gamme vraiment diversifiée, viande, produits laitiers. On a aussi des produits un peu plus spécifiques, des pâtes qui sont produites à côté de Blois, donc par le Barbu, des produits aussi du vinaigre, des condiments, des confitures, des biscuits, des choses un peu plus originales. Et puis dans les produits de base, on a réussi à avoir un peu tout. Il y a beaucoup de fromage aussi dans le coin. Ce qui nous manque là, pour l'instant, ce qui nous manque, c'est du lait local, du beurre, ça on n'a pas, et des fruits. C'est pas facile à trouver des fruits par ici. Donc voilà, c'est les trois... En bio, oui, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on a une cinquantaine, je pense, de producteurs, quasiment tous en bio. On en a quelques-uns qui ne le sont pas, mais parce que c'est des productions qui sont très spécifiques. Je pense par exemple à la ferme de l'étang qui fait des serres. Mais donc ces producteurs-là, c'est vrai que on porte une attention particulière à la visite et c'est aussi important de voir comment ils travaillent pour ne pas proposer des produits qui ne correspondraient pas à notre éthique et à notre manière de voir.
D'accord. Et justement, cette éthique, cette manière de voir, comment elle s'incarne pendant une visite de ferme comme ça? Quels sont les critères qui...
La plupart sont en bio, donc déjà le cahier des charges bio est assez restrictif. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir là par exemple avec Florent, voir comment il est avec ses animaux, voir la nourriture, si elle est produite sur la ferme, c'est d'autant plus intéressant, les filières, les débouchés, comment agir pour le bien des animaux, de la ferme, en respectant l'environnement, en essayant de travailler de manière... respectueuse, quoi.
Est-ce que vous avez des seuils précis? Est-ce que comment ça fonctionne? Est-ce que vous dites celui-là non, je le sens pas, machin?
On a déjà fait. On les connaît déjà via on fait des recherches un petit peu sur internet, etc. Et puis il y en a déjà pas mal qu'on connaît via les marchés, via les AMAP dans lesquels on peut être inscrit. La plupart des bénévoles sont déjà des personnes qui consomment localement et qui sont sensibles au bio, donc on retrouve un petit peu les mêmes producteurs d'habitude, quoi. Vendôme, c'est pas non plus immense, donc c'est les mêmes qu'on retrouve, on les connaît, on sait comment ils travaillent déjà, on a confiance en eux. Donc après, les visites, ça permet d'aller un petit peu plus loin encore, de comprendre un petit peu mieux leur manière de faire, etc. Parce que c'est vrai que souvent on connaît les produits, on est déjà conquis par leurs produits, mais donc là c'est chouette d'apprendre à les connaître eux et leur ferme. Donc voilà, il n'y a pas de seuil ni rien, c'est des jeux. On a déjà fait un tri avant, on va dire. Voilà, les personnes qui ne nous intéressent pas, souvent on ne les a pas contactées. Il y a très peu de producteurs où on est comme ça en balance à se dire est-ce qu'il est vraiment intéressant ou pas. Ceux qu'on a contactés, c'est souvent que on aimerait bien travailler avec eux. Et puis, on ne fait pas la fine bouche non plus. Les producteurs bio dans le coin, il n'y en a pas énormément. Donc quand ils veulent travailler avec nous, on est super contents, quoi. C'est en fonction de ce qu'ils veulent bien nous dire aussi. Et puisque nous, on peut voir de la ferme, on ne peut pas vérifier comment les gens produisent. On leur fait confiance aussi par rapport à ce qu'ils nous disent. Et puis on estime comme ça. En gros, ce qu'on trouve en bio, on le prend en bio. Et puis voilà, quelques productions comme ça à côté où, qui sont quand même intéressantes, je pense, oui, à avoir.
Là, il faut que je paille encore aujourd'hui. C'est un peu sale. Là.
Mais la paille, quand c'est sale, vous la remettez dans les champs, vous en servez comme...
De quoi le fumier, tu veux dire?
Oui, le fumier.
Bah, le fumier, on l'utilise comme fertilisant pour les cultures. Et quand il fait beau, j'ouvre pour avoir un peu plus de lumière. Mais il faut que le vent soit... qu'il n'y ait pas de vent, parce que sinon ça impacte les... Il faut que le vent soit léger, quoi.
Ouais, le fumier, c'est un engrais naturel.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est de la paille, des résidus de foin, ouais, et des crottes de nuit. Voilà.
Ah oui, c'était
bien, c'est trop beau. Je voulais faire ça avant que vous arriviez, mais
je suis venu. Ah, il y en a deux, c'est vrai qu'ils sont, ouais, ils sont adorables.
Ils sont venus ce matin. Hop.
C'est deux petites
femelles. Je vais vous rendre à votre mère. La mère, elle est pas trop contente. Et en fait, on les met dans la cave avec leur mère. On les met dans la cave avec leur mère pendant 24-48 heures. Pour que le lien mère-agneau se fasse bien. C'est vraiment le critère de réussite le plus important. Si le lien mère-agneau ne se fait pas bien du tout, ouais, la mère va les délaisser.
Les délaisser, ils risquent de...
Et donc ouais, derrière, ils ne vont pas profiter.
Ouais, d'accord.
Il faut au moins qu'ils, pendant un mois, ils soient...
Au lait de la mère, c'est
au
vrai.
Au minimum, il faut que pendant 35 jours, ils soient derrière leur mère.
Ouais.
C'est le minimum. Ouais. C'est vraiment le minimum. Ah ouais. Parce que là, ils vont passer, en un mois, si tout se passe bien, là, ils sont à 3 kilos. Ils vont passer de 3 kilos à 18 kilos. Quoi. En fait, on est sur un bâtiment qui est assez humide. Hein,
ouais.
Et ça, c'est... Si elle tousse, c'est parce qu'elle a une petite infection, petite maladie pulmonaire. Et ça, c'est dû à l'ambiance.
Ouais, on voit des gouttelettes.
Ouais. C'est pour ça que j'essaie d'ouvrir quand il fait beau pour évacuer et qu'il y a un léger courant d'air.
Ouais.
Mais la limite du mouton, c'est que les agneaux, ça supporte pas les courants d'air.
Ouais.
Donc, s'il y a un peu de vent à l'extérieur, je referme.
Ouais.
Donc, je me mise. Enfin, cette période de l'année, je me mise beaucoup à ouvrir, fermer les os. Et voilà.
C'est la fin de cette 21e feuille vive sur le projet d'épicerie participative à Thorey-la-Rochette. À l'heure où vous écoutez ce reportage, le comptoir des cocottes est encore en cours d'aménagement à la recherche d'adhérents, de bénévoles et de financement et devrait ouvrir ses portes en juin prochain. Le circuit commercial court pour la vente de produits agricoles est l'un des thèmes fétiches de cette émission puisqu'il permet de renouer une relation plus étroite entre les habitants et les agriculteurs d'un même territoire. Le futur comptoir des cocottes, comme l'épicerie de centre-ville de Thomas Grappi, le salon des vins du coin ou encore la ruche qui dit oui, ces structures commerciales créent des espaces d'interaction sociale entre consommateurs et producteurs. Espérons que leur multiplication et leur diversification permettent de toucher le public le plus large possible. Retrouvez ce reportage en podcast dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Mes cocottes, mes poulets, à bientôt.
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Tiens donc, Mélie, tiens donc voir, je croirais aux mains que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait... Oh,